Paix sur l'actualité avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebey.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, appel sur l'actualité. Vous avez la parole jusqu'à 9h, temps universel, juste après le journal. Dites-nous quel événement aura marqué, selon vous, l'année 2016 qui s'achève. On tire ensemble un bilan de ces 12 derniers mois. Mais d'abord, vos questions sur l'actualité. Vous interrogez ce matin sur les relations entre la RDC et l'Angola, sur les raisons du crash d'un avion militaire russe et sur les déboires judiciaires de Cristina Kirchner en Argentine. Mais d'abord sur le sort de Sophie Petronin. Nous sommes avec Mohamed qui nous appelle de Bamako au Mali. Bonjour Mohamed.
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Alors vous interrogez vous donc sur la disparition de la Française à Gao.
Tout à fait Marie. Alors Marie, une humanitaire française a été kidnappée au nord du Mali. Alors j'aimerais savoir comment peut-on expliquer cet enlèvement, sachant qu'il y a une forte présence des différentes forces armées sur le terrain. Et si j'aimerais aussi savoir si elle n'était pas protégée après avoir échappé à un kidnapping en 2012.
Merci Mohamed pour vos questions. C'est Serge Daniel qui va vous répondre, notre correspondant à Bamako. Bonjour Serge.
Bonjour Marie.
Alors effectivement, Sophie Petronin a été enlevée samedi à Gao, donc dans le nord du Mali, par des hommes armés. Et on en sait un peu plus depuis hier.
Oui, enfin on en sait un peu plus. Disons que Marie, il y a un procureur qui a parlé ici à Bamako, qui a dit qu'il y avait des pistes, qui dit que c'est possible que ce soit un groupe terroriste qui l'ait relevé, mais il n'y a pas de véritable revendication pour le moment. Donc, en l'absence de revendication, il faut, comme d'habitude, être plutôt prudent.
Alors, c'est le procureur qui parle d'Al-Morabitoun. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu qui est ce groupe ?
Alors c'est un groupe dirigé par l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Il y a une histoire, vous savez qu'au début c'était ce qu'on appelait le groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC, qui est devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique, et à l'intérieur d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a eu différentes tendances. Belmokhtar, lui, qui est un Algérien, il s'est fâché, il a créé son groupe parce qu'il n'était pas chef au sein de Acme, et puis ensuite il a fait une alliance avec un autre groupe qui s'appelle le Moujaou, et donc ça avait donné l'Al-Mirabitoun. Ensuite ils se sont encore fâchés, et puis Belmokhtar a repris son groupe, et actuellement disons que ce sont les partisans de Belmokhtar qui sont au sein de ce groupe, puisque lui-même serait en Libye. C'est un spécialiste de l'enlèvement, des enlèvements, ce n'est pas la première fois qu'ils enlèveraient des gens. Encore une fois, comme le disait tout à l'heure Marie, attendons officiellement une revendication pour dire que c'est effectivement eux qui ont fait le coup.
Alors notre auditeur Mohamed s'interroge effectivement sur la sécurisation de Gao. Il disait, voilà, il y a beaucoup de forces armées dans cette ville. Comment expliquer qu'une Française puisse être enlevée ?
Effectivement, c'est un gros problème. Alors, Gao, c'est la plus importante ville du nord du Mali. Vous avez 7 principaux quartiers, mais vous avez 3 forces. C'est la base de la force Barkhane dans le nord du Mali, la force française Barkhane dans le nord du Mali, mais c'est également la base de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi la base de l'armée malienne, la plus importante force militaire de l'armée régulière, c'est à Gao. Donc on peut se poser effectivement la question de savoir pourquoi on en peut enlever aussi facilement quelqu'un dans cette ville. Alors, disons, il y a une absence de dispositif de poursuite en cas de prise d'otage à Gao. Lorsque je me suis informé, lorsque j'ai posé des questions en disant, est-ce qu'on sait qu'il y a des étrangers dans la ville ? Est-ce qu'il y a un dispositif de poursuite pour les empêcher, pour empêcher d'ailleurs d'abord des rapts et ensuite pour empêcher, pour poursuivre en cas de prise d'otage les responsables, les auteurs. On m'a dit non, il n'y a pas de dispositif principal. Ensuite, il y a plusieurs, comme vous connaissez Gao, il y a plusieurs sorties dans la ville. Ce qui se passe également, c'est que la ville de Gao, vous voyez des endroits qui ne sont pas trop fréquentés. Donc, le temps d'intervenir, le temps de prévenir les gens, ils sont partis. Alors, ce que disent les autorités là-bas également, c'est que, attention, il y a peut-être une stratégie des auteurs, des ravisseurs. C'est que tout le monde a vu partir ce véhicule couleur kaki tout de suite en trombe, en croyant que l'otage français, la ressortissante française, était à bord, mais que peut-être que c'était un faux départ, que le véhicule est peut-être parti vide, et que dans un l'otage est resté à Gao, a été peut-être, c'est une hypothèse, peut-être caché à un moment à Gao, avant de ressortir plus discrètement. Alors donc, il y a aussi cette thèse qui circule. La dernière chose, c'est que entre Gao et Djibok, c'est à 50 kilomètres, il y a un drone aurait aperçu un véhicule suspect. On a fouillé et on n'a pas eu la trace de l'otage jusqu'à présent. Elle n'est pas retrouvée. Sophie Petronin, qui était très connue à Gao, qui était dans l'humanitaire, comme vous avez dit tout à l'heure, n'est pas encore retrouvée. Et des habitants de Gao demandent qu'on renforce quand même la sécurité des habitants de cette localité.
Oui, en attendant, Serge, les forces de sécurité maliennes, la force Barkhane, les Kashkabula Mishma font appel à la coopération de la population de la ville. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Mohamed qui nous appelait de Bamako au Mali. On retourne au standard pour accueillir Rousseau qui lui nous appelle de Matadi dans l'ouest de la RDC. Bonjour Rousseau.
Bonjour Marie et bonjour à tous les auditeurs de RFI et Neffel et Mère, à toute l'équipe d'Appels et la Colle.
Merci beaucoup Rousseau, soyez le bienvenu à l'antenne. Vous avez des questions à nous poser, vous, sur les relations entre l'Angola et votre pays, la République démocratique du Congo.
Oui Marie, l'Angola vient de retirer ses militaires qui formaient les forces de sécurité congolaises. Pourquoi ce changement alors que Luanda a réitéré son soutien à Kabila en octobre dernier lors du sommet de la CEACRG? Et ces retraits peuvent-ils avoir un impact aux discussions qui se déroulent au centre diocésain? Et quelles seront les conséquences des relations entre Luanda et Kinshasa?
Alors effectivement, en pleine négociation entre majorité et opposition, sous l'égide des évêques à Kinshasa, les militaires ougandais ont plié bagages. Vous vous demandez pourquoi, l'impact sur les discussions actuelles et les conséquences. C'est Laetitia Bezin du Service Afrique de RFI qui va vous répondre. Bonjour Laetitia.
Bonjour Marie.
Alors déjà, comment expliquer effectivement, Rousseau le disait, un changement de position alors que l'Angola avait réitéré son soutien à Kabila, à Joseph Kabila, en octobre dernier?
Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce retrait des troupes angolaises de RDC ne signifie pas que l'Angola a lâché Joseph Kabila. En fait, on peut y voir une prise de distance certaine, mais c'est surtout un moyen de pression sur les autorités de Kinshasa pour qu'elles règlent leurs problèmes politiques. Alors, pourquoi l'Angola fait pression sur la RDC? Eh bien, parce que l'instabilité en RDC n'est pas bonne pour les affaires de l'Angola. La semaine dernière, le ministre angolais des Relations extérieures avait condamné dans un communiqué la violence récurrente, je cite, en RDC, et avait demandé à la classe politique et la société civile de préserver la paix. Mais ce qui préoccupe surtout l'Angola, ce n'est pas forcément les droits de l'homme, mais la stabilité, la sécurité, les flux de réfugiés et surtout le pétrole, parce que l'Angola partage des concessions pétrolières avec la RDC. Ce sont donc les trois domaines clés qui guident la politique angolaise dans le pays. Donc dès qu'il y a une crise, un problème qui pourrait mettre en danger la stabilité du pays et donc les intérêts de l'Angola en RDC, les autorités angolaises sont en alerte et c'est cela qui a provoquer cette réaction, cette prise de distance de Luanda à l'égard de Joseph Kabila.
Alors les négociations sous l'égide des évêques de la CENCO vont reprendre aujourd'hui. Est-ce que justement l'attitude de l'armée angolaise pourrait avoir un impact sur ces négociations?
Oui, cette attitude de Luanda pourrait peser sur les décisions des autorités congolaises. Cette pression de l'Angola pourrait même avoir plus d'impact que les sanctions internationales. C'est ce que pense en tout cas le chercheur Jason Stearns que vous avez pu entendre sur notre antenne cette semaine. Il explique que l'Angola a des capacités énormes de pression sur la RDC, notamment parce que l'Angola a joué un rôle clé dans la défense du régime de Joseph Kabila et de son père. C'est l'Angola qui a aidé à renverser le régime de Mobutu Sese Seko. En 1998, c'est encore Luanda qui sauve le gouvernement de Laurent Désiré Kabila contre une invasion rwandaise. Donc jusqu'à maintenant, l'Angola est l'un des pays qui a le plus de moyens de pression RDC et donc le plus de capacités à influencer les autorités. Et pour le chercheur Jason Stern, ce retrait des troupes angolaises en RDC, c'est un message plutôt subtil, mais qui peut avoir un grand impact sur la psychologie des gens au pouvoir à Kinshasa.
Et la dernière question de Rousseau, notre auditeur de Matadi, les conséquences de cette attitude aussi sur les relations entre Luanda et Kinshasa?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, l'Angola a une influence de longue date dans les affaires militaires, mais aussi politiques de la RDC. RDC. Pour le moment, on ne peut pas dire que Luanda a laissé tomber Joseph Kabila. Ce qu'explique le chercheur Jason Stern, c'est que Joseph Kabila était jusque-là un partenaire plutôt idéal pour l'Angola. Mais maintenant qu'on entre dans une phase beaucoup plus instable politiquement, l'Angola est en train de décider si ça vaut la peine d'user de son influence pour effectuer un changement. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que Luanda pourrait se rapprocher de l'opposition et notamment de Moïse Katumbi qui a des contacts assez étroits avec certains leaders du MPLA, le parti du président angolais. Donc ça met Joseph Kabila dans une position délicate car aujourd'hui il y a quelqu'un d'autre de soutenable parmi ses rivaux.
Merci beaucoup Laetitia Bezin d'avoir été avec nous en direct en studio pour répondre aux questions de Rousseau qui nous appelait de Matadi en RDC. Il est 9h20 à Paris, 8h20 en temps universel et à Ouagadougou nous attend notre auditeur Karim. Bonjour Karim.
Oui, bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
Alors, vous avez des questions, vous, sur le crash d'un avion militaire russe.
Le 25 passé, un avion militaire russe qui se rendait en Syrie s'est traduit dans la mer Noire. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait de la circonstance du crash et pourquoi la Russie a-t-elle écarté les pistes d'une attaque terroriste.
Merci Karim pour vos questions. C'est Elena Gabrielian qui va nous répondre, journaliste à l'antenne russophone de RFI. Bonjour Elena.
Bonjour Marie.
Alors c'était dimanche, cet avion militaire russe avec à son bord 84 passagers, dont une soixantaine de membres des cœurs de l'armée rouge, plus les manques d'équipage qui ont donc disparu à bord de cet avion en mer Noire. Qu'est-ce que l'on sait donc des circonstances de ce crash ?
Alors, il faut savoir que l'avion a disparu des écrans radars à peine quelques minutes après son décollage de l'aéroport de Sotchi. Il se rendait sur la base militaire russe en Syrie, près de Latakié, la base militaire que la Russie utilise beaucoup pour son opération en Syrie. Pour l'instant, les enquêteurs seraient sur la piste de l'incident technique, le crash de l'avion a probablement été provoqué par un défaut de fonctionnement des volets, a rapporté mardi une agence de presse russe qui indique que les volets sur les ailes n'ont pas fonctionné correctement, ce qui précise en tout cas un enregistrement des derniers mots prononcés par le pilote juste avant le crash. Il aurait également indiqué que son appareil allait s'écraser. Commandant, on est en train de tomber, le cite les médias russes. Il faut savoir que ces mots des pilotes ont été relayés par quelques médias, mais n'ont pas été pour l'instant confirmés. Et c'est pour ça que les experts, pour l'instant, ne donnent pas crédit, en fait.
Puisqu'une boîte noire a été retrouvée, on attend encore son analyse.
Exactement. Et il faut savoir que, voilà, hier, le ministère de la Défense a annoncé que la deuxième boîte noire a été également retrouvée, et aussi 15 corps et 200... fragments de corps des victimes, et la plupart sont déjà transférés à Moscou où ils doivent être identifiés, et on attend justement les résultats de l'enquête après que cette deuxième boîte a été retrouvée, donc ça va durer plusieurs mois.
Il y a déjà suffisamment d'éléments en tout cas pour écarter la piste terroriste, et l'autre question de notre auditeur Karim.
Il faut déjà savoir que c'était un avion militaire et qui partait de l'aéroport initialement situé à Tchkalovsk, donc près de Moscou. Et l'équipage aussi était militaire. Pour le ravitaillement, l'avion a fait un escale à Sotchi sur un site aussi extrêmement protégé. Et donc, les autorités avancent cet argument sécuritaire, en fait, pour justement écarter la piste terroriste. Mais il faut savoir que même si la version officielle reste l'incident technique, après, il y a plusieurs hypothèses, quelques experts s'expriment, notamment sur les sites de l'opposition, pour dire qu'il faut pas quand même écarter définitivement cette piste terroriste. Notamment un expert dans l'aviation, Vadim Lukashevich, explique que les débris de l'avion ont été retrouvés dans un périmètre à 1,5 km, ce qui est assez important selon lui. Et ce qui voudrait dire que peut-être l'avion a commencé déjà à se détruire dans l'air. Et il faut savoir aussi, ce qui nous rappelle aussi cet expert, c'est qu'en octobre 2015, un avion russe s'était écrasé dans le Sinaï et la Russie a mis 2 semaines à reconnaître que c'était un attentat. Et il y a extrêmement, l'atmosphère est très très politisée aussi autour de ce crash, ce qui fait que l'enquête, on a très peu d'éléments. et qu'il faut attendre plusieurs mois pour savoir plus.
Voilà, l'analyse en tout cas des boîtes noires qui donc ont été retrouvées, elles vont être envoyées à Moscou. Merci beaucoup Elena Gabriel-Lian de nous avoir rejoint en studio pour répondre aux questions de Karim. Un dernier auditeur pour cette première partie d'appel sur l'actualité, c'est Youssoufa qui nous appelle de Gao dans le nord du Mali. Bonjour Youssoufa.
Bonjour Marie, bonjour les auditeurs de RFI qui nous écoutent.
Alors vous vous intéressez aux déboires judiciaires de l'ancienne présidente argentine?
Justement, en Argentine, l'ex-présidente Cristina Kirchner est inculpée pour corruption dans une affaire de marché public triqué. Je veux savoir quelle est l'ampleur de cette affaire. Est-ce que ces accusations pourraient-elles la conduire en prison?
Alors, nous avons appelé pour vous Youssoufa Pilar González Bernaldo de Quiros, professeur d'histoire à l'université Paris 7, Paris Hydro, spécialiste de l'histoire argentine. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Alors, l'ex-présidente donc a été mise en examen dans une affaire de corruption. L'annonce a été faite mardi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce qui est reproché à Cristina Kirchner, en tout cas les soupçons qui pèsent sur elle?
Oui, alors l'accusation est particulièrement grave parce que c'est une mise en examen pour association illicite et administration frauduleuse. Le juge Julian Ercolini, qui a d'ailleurs ordonné le gel de ses biens, lui reproche d'avoir installé pendant non seulement ses deux présidences, mais c'est une affaire il lui reproche que c'est une affaire qui a été montée par son mari, Néstor Kirchner, pendant sa première présidence, et donc et l'association illicite serait continuerait pendant les trois mandats, c'est-à-dire de 2003 à 2015. Pendant tout ces temps, on lui reproche d'avoir installé des proches à elle dans le gouvernement national, mais également de l'État de la Patagonie, l'État de Santa Cruz, qui est justement son fief politique, et à partir de là, attribuer ses marchés PDG
un
BTP.
Chef d'entreprise du BTP, vous le dites, qui s'est enrichi, on s'en est rendu compte, sous les trois mandats du couple. On précise que Néstor Kirchner a été président, donc avant sa femme Cristina. Il y a aussi un ancien ministre de la planification qui est inculpé, donc ce sont des faits très graves. Est-ce que, comme Youssoufa s'interroge aussi sur cette question, est-ce que vous pouvez nous dire si ces accusations pourraient la conduire en prison?
Pour le moment, la décision de mettre en examen la ex-présidente. Il faut maintenant prouver les faits. Effectivement, si ces faits sont prouvés, elle pourrait faire entre 10 ans et 16 ans de prison. Mais pour le moment, on n'est qu'à la condamnation. Il faut dire que l'affaire est grave, parce qu'il y a une dimension politique très importante du fait que nous sommes dans une période préélectorale. Au mois d'octobre prochain, il y a des élections pour renouveler la moitié du Congrès, que Kirchner semblerait vouloir être candidate en tant que sénatrice de Buenos Aires. Et donc, vous voyez, la défense de Cristina et de ce soutien politique, c'est que c'est un moyen pour le gouvernement actuel qui se trouve en difficulté pour l'empêcher de faire une sorte de coup d'État politique.
D'autant que Cristina Kirchner est mise en examen dans une autre affaire pour spéculation sur taux de change. Effectivement, elle est un peu cernée au moment où elle aimerait revenir sur le devant de la scène.
Voilà. Et donc, cette affaire, si vous voulez, est grave. Elle est grave pour elle, du point de vue judiciaire, parce que les accusations sont gravissimes. Donc, la justice doit faire son travail. Elle est grave parce qu'elle ne fait que polariser encore plus la société argentine. Et elle est aussi grave parce qu'elle met en évidence le peu de confiance que la population argentine a à sa justice. Et ça, c'est quelque chose qui est lié évidemment à la corruption qui ne concerne pas simplement la société argentine, on le sait.
La société argentine, on comprend qui va observer de près le travail de sa justice. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de Youssoufa Agao. Restez avec nous. Juste après le journal, on dresse ensemble un bilan de l'année 2016.
En sol majeur.